Je viens de lire d'ailleurs aujourd'hui dans Ma'ariv. Vous avez lu Ma'ariv aujourd'hui? Le compte rendu de l'entretien entre les diplomates chinois à Paris et Eliyahu Ben Gaz. Il y a un petit paragraphe, si je me souviens bien, c'est pas une page de Gemara, mais je m'en souviens quand même. Ça doit être en haut de la troisième colonne. Et je viens de lire ça il y a à peine quelques heures. Eh bien, où le chinois lui demande, après lui avoir demandé de parler d'Israël, c'est le compte rendu de la première rencontre qu'il y a eu il y a quelques années. Il lui demande de lui dire quelle est la réaction des membres de son peuple qui vivent en France par rapport à la Chine. Alors Ben Gal lui répond, mais il y en a très peu, il pensait aux Israéliens vivant en France. Et le chinois qui lui dit, non, je parle des Juifs. Vous comprenez, ça veut dire spontanément, ça veut dire que les Juifs de la Gola sont considérés par les Goyim comme étant, eh bien, le circuit s'est fermé, au fond comme étant des Israéliens à l'étranger. Je dois vous dire que les Juifs commencent un peu à s'en rendre compte d'eux-mêmes. Si vous lisez cette extraordinaire interview du président du consistoire de Paris, qui vraiment mérite des félicitations énormes, non seulement pour le fond, mais aussi pour la forme. Je ne sais pas si vous avez peut-être entendu ça à la radio ou vu ça dans... Ben, le président du consistoire. Non, c'est pas dans Marie. Ça doit être dans Shahrid. Mais le président du consistoire de Paris, qui a expliqué cela en termes très courtois et très, très diplomates d'ailleurs, mais enfin très fermes, qu'au fond, les Juifs de la Gola sont des Israéliens en puissance, plus indexés à l'identité française que les francophones d'ici, mais même pas tellement plus.
Dans l'information.
Oui. Bien. Voici donc quelle a été la raison pour laquelle c'est le 9 AB qui représente cette catastrophe. Je voudrais reprendre ça en une phrase. La liturgie de l'expiation dans le temple est la seule liturgie qui permette à l'identité d'Israël de se maintenir pendant le temps de l'histoire terrestre, c'est-à-dire tout le temps qu'il faut que l'envergure individuelle, avec ses défauts et ses fautes, coïncide avec l'envergure collective, avec l'identité collective d'Israël tzadik. Lorsque, si je reprends cette phrase, lorsque le verset dit « Ve'amer kulam tzadikim le'olam irshu aret », c'est clair. C'est-à-dire, c'est en tant qu'Israël est un ensemble de tzadikim qu'ils ont droit à l'héritage du pays, puisque c'est le pays de la Torah, qui est la clause de l'alliance de la Torah. Mais « Ve'amer kulam tzadikim », ça veut dire qu'il faudrait que ce soit un rassemblement de tzadikim, et qu'à l'échelle individuelle, tout le monde soit tzadik, c'est-à-dire sans aucune faute. Mais cela, dans tout le temps de Olamazé, c'est évidemment pas possible, puisque c'est la vie qui fait qu'il y a des fautes. Et c'est la raison pour laquelle c'est à l'échelle individuelle qu'on entend ce verre Amer Kulam, lorsqu'ils sont Kulam Yahad, tzadik, qui sont tzadik. Je vous disais une fois comment les Hasidim expliquent ce que c'est qu'un tzibour. J'ai dû souvent le dire plus souvent qu'une fois. Un tzibour, c'est-à-dire une collectivité, en hébreu, tzibour, c'est formé de trois lettres, ce mot-là. Tzibour, tzadé, bet, vav, resh, quatre lettres. C'est tzadikim, tzadé, benonim, les gens moyens, urshaim, c'est pour le resh, ça. Ça fait tzibour. C'est-à-dire, dans un tzibour, il y a tzadikim, benonim, urshaim. C'est-à-dire, il est impossible d'avoir un tzibour, dans Olam Hazé, il est impossible d'avoir un tzibour qui ne soit que des tzibour. C'est le vav qui est extraordinaire, non, parce qu'il faut Urshaim. On se contenterait de tzadikim et benonim. Vous voyez pourquoi il y a un var dans le mot de tzibour. Dans la mesure où il y a unanimité, enfin dans la mesure où il y a yichud, où il y a unité, alors ils sont kulam tzadikim. Dans leur participation à l'être cloud. Mais à l'échelle individuelle, la vie, c'est la faute. Haïm, ça commence par het, en hébreu. Et c'est donc pourquoi il était normal, en quelque sorte, que nous soit due cette fonction de la kapara par le temple de Jérusalem. Au point que, et nous n'avons pas pu identifier cela pendant tout le temps de la galoute, parce que nous étions précisément dans la déchéance. Mais les textes qui nous parlent de l'identité d'Israël au temps où le Beth Amigdash existait, nous en parlent comme de cette identité qu'au fond, nous commençons à pressentir avec le nouvel Israël de maintenant. Et qu'au fond, les Goïms ont toujours pressenti, à travers les textes, de ce qu'était Israël dans l'histoire du monde, d'une identité surhumaine, de Kavod, de Tifaret, de gloire, de surgloire, de cet être dont on parle sur Terre, dont les textes parlent, en parlant d'Israël, comme si c'était des Malachim sur Terre. Quand le Temple existait, et que cette fonction de déculpabilisation faisait qu'à l'échelle individuelle, chaque individu reflétait la gloire de l'identité d'Israël, la Kedusha, la sainteté de l'identité d'Israël. Mais lorsque le Temple a disparu, alors tout se passe comme si notre identité à l'échelle individuelle est devenue en négatif. Ce qu'il y avait de surplus s'est traduit en négatif. Et nous sommes peut-être encore la dernière génération à avoir vécu cette identité de la Gola, et déjà la première à entrer dans le temps de la Géoula. Et vous voyez, au fond, c'est un mystère. Pourquoi nous et pas d'autres? Mais ça, c'est un autre mystère. Et vous voyez à quel point le Beth Amigdash avait une importance du point de vue de l'identité d'Israël. Et comment tout cela nous avait été d'ailleurs enlevé par étape et redonné par étape. Et nous sommes à cette étape où, d'une espèce de paradoxe extraordinaire, mais on voit bien qu'il s'agit de madrigote, pas, où le Har HaBayit était à nous, mais où il y a une espèce de consensus universel, pas, du fait que on ne peut pas y faire la prière, nous, les Juifs, alors que c'est le Har HaBayit des Hébreux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que si on ne comprend pas qu'il y a là une stratégie, une véritable chokhma de l'histoire, Madrega, Haré, Madrega, et elles nous sont bien comptées de façon très précise, pas, en 48 c'était presque tout sauf l'essentiel, et puis en 67 c'est tout sauf l'essentiel, et puis après ça sera l'essentiel avec tout, et puis le reste qui manque encore. Mais on voit bien que il y a là la reconquête des niveaux d'identité. Alors abordons maintenant le deuxième point, c'est-à-dire cette articulation que l'enseignement traditionnel a toujours donnée entre la Géoula et la Galoute, et qui est donc la délivrance et l'exil, et qui se manifeste précisément par ce Midrash qui nous dit que c'est le jour de Tisha B'Av que le Messie doit naître. Alors je voudrais d'abord rappeler assez brièvement un certain nombre d'analyses que vous avez peut-être déjà entendues ici ou ailleurs, enfin de formes peut-être différentes, de la définition de ce qu'a été l'espérance, de ce qu'est l'espérance messianique pour la tradition juive. Il faut remonter très loin. Le premier niveau de l'espérance messianique, nous la trouvons dans la conscience des judéennes après le schisme du temps du roi Salomon, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et après la destruction du premier royaume d'Israël. Et elle se définit de la manière suivante. Israël, c'était les 12 tribus des Hébreux descendants de Jacob, donc descendants des patriarches. Et puis voilà que la majeure partie de cette identité Israël, de cette identité hébraïque, à travers les 10 tribus du royaume du Nord, sont perdues. Et par conséquent, il reste, si j'ose dire, un mini-Israël qui est représenté par la Judée. 2 tribus sur 12, c'est pas très exact, c'est 2,5 et puis 11,5, et puis, si vous voulez, je vous donnerai les définitions plus exactes, mais enfin, dans le royaume de Juda, c'est la tribu de Juda et de Ménaché, pardon, de Juda et de Benjamin, la moitié de la tribu de Ménaché, et la partie des Lévites, de la tribu de Lévi, correspondant à ce royaume. Le reste, c'était le royaume du Nord qui s'est perdu. Donc, tout se passe comme si l'identité d'Israël a été mutilée de la majeure partie de sa manière d'être homme, qui est retiré de l'Israël visible et qui est plus que dispersé, plus qu'en exil, et qui est investi, enfoui chez les autres peuples. Et alors, on s'aperçoit d'un événement corollaire, la prophétie s'arrête en Israël, parce que le véhicule de captation, si j'ose dire, le véhicule de réception de la prophétie est faussé, puisqu'il n'y a que 2 douzièmes, et la civilisation goy commence. Il y a là une relation, c'est en ce temps-là que ces choses se passent. Il y a là une relation qu'il faudrait approfondir beaucoup plus en détail et dans toutes les correspondances, mais simplement je vais vous désigner l'époque, ce que nous appelons la civilisation goy telle qu'elle finalement elle culmine dans la civilisation contemporaine, commence en un temps où la civilisation hébraïque entre dans la clandestinité de ces deux manières. D'une part, l'identité hébraïque du royaume d'Israël est perdue chez les goïmes, et d'autre part, cette espèce de tzimtzum d'Israël qui est devenu le royaume de Judée, les débris des tables, si vous voulez, qui commence une histoire de dimension seconde, juif par rapport à hébreu, avec en moins l'essentiel, c'est-à-dire la fonction de la prophétie. C'est-à-dire d'une part, la prophétie s'arrête en Israël, et d'autre part, la civilisation commence chez les goïmes. Et c'est là qu'apparaît, chez les judéens, c'est-à-dire les rescapés du royaume de Juda, du premier royaume de Juda, chez les judéens eux-mêmes, la conscience messianique, la messianité, c'est-à-dire l'espérance du Mashiach. Le Mashiach étant défini de façon très stricte comme étant l'homme en Israël qui redonnera l'envergure complète et intégrale de l'identité hébraïque perdue à la suite de la destruction de l'ancien royaume d'Israël. C'est-à-dire les judéens se trouvaient héritiers de l'identité du tout Israël, alors qu'ils n'étaient que les judéens. Je sais pas, est-ce que vous comprenez bien ce décalage ? Et par conséquent, apparaît dans la conscience des judéennes une tension messianique entre ce qu'ils étaient, les membres de la tribu de Judas et de Benjamin, et d'autre part, tout Israël des Hébreux, tel qu'en parlait la Torah, et tel qu'il était le véhicule de la prophétie. Et donc, première dimension messianique, d'espérance, de la reconstitution de l'identité hébraïque à partir de l'identité juive. Et c'est cette messianité-là que l'on appelle dans la tradition juive la messianité du Messie, fils de Joseph. Pourquoi ? Parce que ce royaume d'Israël, c'était Beth Yosef. Ce royaume d'Israël qui était perdu, c'était Beth Yosef, par rapport à Beth Yehuda, qui était le royaume de Juda. C'est-à-dire, on attend d'abord le Mashiach Ben Yosef, qui a pour tafkid, qui a pour fonction de reconstituer l'identité nationale d'Israël en tant que le peuple de l'identité des patriarches dans toute son envergure, dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire le retour de l'identité juive à l'identité hébraïque, ce qui me mène à dire en anticipant un peu que c'est ce temps-là que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire que le temps actuel de l'histoire d'Israël, c'est le temps de Mashiach Ben Yosef, c'est-à-dire la retransformation de l'identité juive en identité hébraïque. C'est-à-dire apparaît en Eretz Israël, dans Médinat Israël, un type d'homme qui est juif à l'index de toute l'identité d'Israël. C'est bien clair. C'est-à-dire que la Géoula a commencé et que le temps du Mashiach Ben Yosef a déjà commencé. Et puis, lorsque ce temps réussit, lorsque cela est réalisé, alors apparaît un deuxième niveau messianique, qui est Mashiach ben David, c'est-à-dire de la réauthentification de cette nation d'Israël reconstituée par rapport à la Torah. Voilà, enfin très brièvement pour ce deuxième point, et nous arrivons, si vous voulez, au troisième point de ce que nous sommes en train de vivre dans la période historique contemporaine, et bien, au fond je l'ai déjà défini, un peu plus même qu'en préface, c'est que nous sommes en train de vivre ce processus du Mashiach ben Yosef, c'est-à-dire de la reconstitution nationale à l'échelle collective de l'identité d'Israël, qui sera véhicule de la deuxième tkoufa messianique, c'est-à-dire du temps du Mashiach ben David. Et, au fond, pour revenir au problème du temple, c'est-à-dire tout se passe comme si la liturgie de l'expiation par les sacrifices, c'est-à-dire du Beth Amigdash, nous sera redonnée à partir du moment où la société israélienne pourra donner le témoignage d'une récupération de la coïncidence du niveau moral à l'échelle individuelle par rapport au niveau moral à l'échelle collective. Lorsque ceci qui est en train, dans tous les désordres et dans tous les Hevle Mashiach, c'est-à-dire les Hevle Leda plus exactement, dans toutes les souffrances de l'enfantement, sera suffisamment amorcé, tout porte à croire que Enbrera, il faut que ça soit très vite, parce que sinon tout éclate. Si ça s'arrange pas, ça se dérange, alors il faut que ça s'arrange. Eh bien, lorsque ceci sera plus avancé, donc on peut dire, vraiment, bien réveillé avec nous, Alors nous sera donné le feu vert pour avoir la montagne du temps. Je ne sais pas ce qui se passera à l'ONU entre les pays arabes. Il y a toujours des choses invraisemblables qui se passent chez eux, mais il se passera quelque chose. Et puis on aura le feu vert pour avoir de nouveau le Bétamigdash. Entre-temps, nous sommes dans cette situation que décrit la Gemara quand elle parle de l'expérience religieuse, des Gilou Bil'Ada, c'est-à-dire à la fois Simcha et Ira, c'est-à-dire à la fois Gila et Ada. C'est-à-dire il y a à la fois la joie de la délivrance qui est en train de commencer, et puis encore le deuil de la Galoute qui n'est pas encore fini. C'est-à-dire nous sommes vraiment dans une période de transition où nous sommes très gênés pour, j'allais dire, fêter Tisha B'Av. Je sais pas, si certains d'entre vous, ne serait-ce que l'année dernière, ont été à Tisha B'Av au Kotel, alors ils ont dû remarquer cet énorme point d'interrogation qu'il y avait sur le mur. Est-ce que c'est une fête ou est-ce que c'est un deuil? Vous avez dû remarquer que nous sommes déjà en pleine transition. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute que c'est un deuil, puisqu'il y a une mosquée à la place du Beth Amikdash. Remarquez, on l'a échappé belle. S'il y avait une cathédrale, ça aurait été plus terrible. Parce que au moins, une mosquée, il n'y a pas d'idole dedans. Et c'est comme Tfila. Sans problème. Les plus intransigeants du Shulchan Aruch vous diront qu'une mosquée ne doit pas être considérée comme Avodah Zara. Mais alors imaginez de la difficulté politique et religieuse de l'État d'Israël contemporain si ça avait été une cathédrale. Remarquez à quel point on a échappé d'elle. Parce que là, une brera, il aurait fallu détruire avec les mains. On ne peut pas attendre que ça se passe. Et puis donc, lorsqu'effectivement la société d'Israël, ce qu'elle est inévitablement en train d'être, parce que c'est la condition de son existence, c'est vraiment, comme disait Shakespeare, exister ou être ou ne pas être. Il n'y a pas de milieu. Ou bien c'est une société basée sur la morale, ou bien elle disparaît. C'est ce qui est arrivé trois fois. Enfin, ce qui est arrivé deux fois et demi, mais trois fois ça n'arrivera. Et donc sera en elle-même cette identité d'une société à qui il faut un Bétamigdash. Alors le Bétamigdash sera donné, et puis ça deviendra la société témoin pour l'humanité entière. Ça sera cela le stade de Mashiach ben David. Bien, voilà grosso modo ce que je voulais vous rappeler dans ces analyses. Vous avez la parole si vous avez des questions. Oui, écoutez, il y a d'abord un... Vous avez entendu la question? Ben, j'ai dit un peu furtivement tout à l'heure qu'il y a eu deux destructions du temple, il n'y aura pas une troisième. Non, il n'est pas encore reconstruit, on dit qu'il ne sera pas détruit. En fait, ça veut dire que Médinat Israël ne sera pas détruit. D'abord, on se bat sur la foi. Parce que, je ne sais pas comment vous dire, ce sont des choses que, tant qu'elles ne sont pas arrivées, la certitude qui nous relie à cela, c'est une certitude par la foi. C'est-à-dire que c'est cette même foi qui nous a fait exister pendant des millénaires, qui nous fait dire que ce n'est pas possible autrement. Pendant des millénaires, on aurait pu dire, mais qui peut garantir que le peuple juif va continuer à exister étant donné le sort qu'il a? Et nous continuons à dire, pendant des millénaires, c'est pas possible autrement, Emouna. Enfin, c'est une foi qui peut s'expliquer, mais enfin qu'on ne peut pas démontrer avant que l'événement n'arrive. Tout ce qu'on peut donner, c'est une preuve a posteriori. La preuve qu'il n'est pas possible, que cela n'est pas possible autrement, c'est que nous sommes arrivés jusque-là. S'il y a eu un tel événement qui a fait que l'exil a pris fin, que le retour a commencé, et que cela a pu exister, cette chose absolument invraisemblable, que malgré l'hostilité du monde entier, les Juifs y compris, il y a un État d'Israël, je dis bien les Juifs y compris, malgré l'hostilité de tout le monde, il y a eu un État d'Israël, eh bien c'est que ce n'est pas possible autrement. Et, si vous voulez, Dieu ne joue pas au bi. Si déjà ça a commencé comme ça, on peut être assuré, en tout cas à l'échelle collective, que c'est indestructible. Et puis, il y a, si vous voulez, un certain nombre de manières de le comprendre. Il y a d'abord un verset dans Echa. Echa, c'est les lamentations de Jérémie que nous lisons donc le jour de Tisha B'Av. Un verset qui dit « Bacho tipke balaïla ». C'est-à-dire « pleurer, elle pleure dans la nuit ». Le Midrash a expliqué « Bacho, pleurer », c'est pour le premier temple, « Tipke », c'est pour le deuxième temple. Et les Mefarshim m'ont ajouté, donc il n'y a pas une troisième pleure, un troisième bri. Elle pleura deux fois, pas trois. Et puis je voudrais aussi l'éclairer d'une autre manière. C'est que les trois exils que nous avons connus, comme vous le savez, correspondent à l'histoire des trois patriarches. L'exil d'Égypte a correspondu à l'histoire d'Abraham. L'exil de Babel a correspondu à l'histoire d'Isaac. Et l'exil présent, qui se termine maintenant, correspond à l'histoire de Jacob. Et par conséquent, nous sommes en train de vivre la troisième étape et la dernière étape de la preuve d'identité à faire qu'il y a pour Israël. Et puisqu'elle s'achève, alors c'est fini. Il n'y a plus à y avoir une autre galoute. Est-ce que c'est bien clair? Je veux dire qu'à l'échelle collective, Israël a à revivre l'épreuve d'identité de chacun des patriarches. Lorsque nous sommes sortis d'Égypte, à l'échelle collective, nous avons fait la preuve que nous étions fils d'Abraham, c'est-à-dire capables de la vertu d'Abraham, dont Abraham était capable à l'échelle individuelle. À la sortie de Babel, il s'agissait de la vertu de Yitzhak. Et puis nous avons été dans ce terrible exil de 2000 ans, occupés à vivre l'histoire de Jacob chez Ésaü. Et puisque c'est fini, c'est donc Jacob qui devient Israël, et puis c'est fini. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre. La question qui pourrait se poser, c'est est-ce que c'est cette Tkoufa que nous vivons, c'est-à-dire cet épisode de Médinat d'Israël qui a commencé il y a 23 ans, combien déjà 22 23. Ou bien est-ce que c'est une péripétie qui pourrait échouer, mais cet exil de Jacob ce ne serait le troisième, il n'y en aurait déjà pas de quatrième. Bon, alors c'est là que je vous disais tout à l'heure, si on se rend compte vraiment de ce qui se passe pour Médinat Israël contemporaine, et que c'est la première fois depuis 2000 ans que l'identité d'Israël ressuscite en tant qu'Israël, alors on s'aperçoit que vraiment c'est irréversible. Ça veut dire que ce sont les premières étapes, mais ce sont les premières étapes de quelque chose d'absolument irréversible. Ça veut dire si Médinat Israël était détruite, ça voudrait dire que rien de ce qui s'est passé jusqu'à nous dans notre histoire n'avait de cohérence. Or, comme c'est précisément maintenant que cette cohérence se dessine, ça veut dire que finalement toute la cohérence antérieure culmine et se réalise maintenant, et que c'est par conséquent irréversible. Pour vous donner, si vous voulez, un certain nombre de détails, tout ce qu'ont dit les prophètes dans cette dimension exorbitante, hein, de la relation entre Israël et l'égoïme à l'échelle universelle ne s'est jamais réalisé au temps du premier temps ni au temps du deuxième temps, mais s'est réalisé maintenant de notre temps et de notre vie. Seulement comme c'est nous qui vivons cela, alors par trop de pudeur, si vous voulez, ou par écrasé par l'événement, nous ne percevons pas de quoi il s'agit vraiment. Mais c'est cela que nous sommes en train de vivre. Si vous voulez, que ce ne soit plus Rome qui soit défini dans l'histoire comme le peuple d'Israël de la Bible, mais Jérusalem, ben c'est la première fois depuis 2000 ans. Et ça, ce n'est pas une péripétie, ce n'est pas un degré dans la galoute. Ce n'est pas que parmi les peuples de la Galoute, il y en a un qui est un peu plus privilégié parce qu'il parle l'hébreu et c'est la communauté juive en Israël. C'est tout à fait autre chose. C'est la résurrection de l'identité hébraïque à travers toute l'histoire de la Galoute qui a duré 2000 ans. Et c'est par conséquent irréversible. Alors vous me direz, mais on ne voit pas dans la vie municipale quotidienne, et puis nous en parlons souvent, on ne voit pas cela. Alors, je vous dirais, c'est une question d'accommodation des yeux. Mais ce qu'il faut comprendre, et c'est d'abord très important, c'est qu'il y a une différence de nature entre ce qui est vécu à l'échelle collective et ce qui est vécu à l'échelle individuelle. Et puis d'autre part, je vous raconte la manière dont le Midrash l'explique. On a donné une fois un bel habit à fabriquer à un tailleur. Un habit très difficile à faire, un habit splendide. Et puis alors, les gens qui avaient donné cet habit à faire au tailleur venaient tous les jours demander au tailleur, montre-moi comment ça. Et chaque fois, ils étaient déçus. Alors le tailleur leur a répondu, ça va nous, quand l'habit sera complètement fini, vous verrez comme c'est beau. Mais pour le moment, ça n'a aucune forme. C'est un habit en train d'être cousu, en train d'être découpé. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un brouillon. Alors l'habit sera, le débouche, sera complètement fait, alors on verra que c'était ça. On aurait peut-être une image un peu plus forte. C'est l'image de l'embryon. Hein? Imaginez qu'on dise à la première femme au monde, qui a eu au monde, tu vas avoir un enfant. Un enfant, c'est très beau quand c'est réussi. Et puis, elle est enceinte. Alors, si on regardait dans le sein maternel cet embryon, c'est affreux un embryon, mais c'est pourtant de lui qu'il s'agit. Voilà, c'est cela.
Qu'en est-il du mérite individuel par rapport à cette identité d'Israël Kulam Kulam?
Écoutez, à quel niveau vous posez la question?
Bien au niveau actuel.
Écoutez, je vais vous dire, je vous cite l'enseignement du Rav Kook, que vous retrouverez chez tous ses élèves, mais ça se trouve aussi dans l'ensemble de la tradition. Seulement, si vous voulez, la chita du Rav Kook est celle qui a fait l'option de dire à voix haute ce que tout le monde lit à voix basse. C'est que, quelque individu que ce soit, quel que soit, sauf les limites de cas de perversion, mais quelque individu que ce soit, qui a décidé de faire coïncider son histoire individuelle avec l'histoire collective d'Israël, rentre dans ce clade de Ve'amer Kulam Tzaddikim. Quelle que soit sa position vis-à-vis de la Torah, ou vis-à-vis de ce qu'on appelle la religion, ou vis-à-vis des pratiques, ça ne veut pas dire qu'il soit quitte du jugement individuel sur sa personne individuelle, mais en tant que tel, il fait partie de cet ensemble sans strictement aucun problème. Si on se pose la question, mais enfin, est-ce qu'on peut vraiment admettre que ce soit des miracles cachers, ces miracles qui arrivent à travers des gens qui ne sont pas cachers? Alors, nous avons un texte clair dans le Midrash. Hanes Yabo Mikol Makom. Ça veut dire deux choses, que le miracle viendra de toutes les façons, et que le miracle vient de n'importe où. Je vous citerai un enseignement à ce sujet de détail qui va très loin et qui explique que c'est une stratégie de Dieu lui-même de montrer aux Goïm un peuple d'Israël ambigu qui, à l'échelle individuelle, ne coïncide pas avec l'image que la Torah, que la Bible, que la Datiout donne vraiment d'Israël, des tzadikim d'Israël et des kedoshim d'Israël, de telle sorte de tromper l'ennemi. C'est Nesba Akifin, que Dieu se sert d'hommes apparemment Rshaïm pour faire les miracles, parce que si c'était à travers des hommes apparemment Tzadikim, les Goïm seraient pris non seulement de panique mais de fureur. Ça veut dire que ce serait trop énorme. Le Satan se déchaînerait contre. Est-ce que vous comprenez cette idée? C'est-à-dire que c'est Akifin, comme on dit, c'est une stratégie de Dieu lui-même de faire ces miracles extraordinaires qu'avaient annoncé les prophètes avec Tzahal, en faisant semblant que Tzahal, ce n'est pas une armée de tzadikim, ce qu'elle est de toutes les façons d'autre part. Bon, et ceci à travers notre Misrad Achus, notre Misrad Apnim. Ça a l'air énorme ce que je vous dis là, mais c'est tout simplement ce que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire ce qui se passe dans l'incarnation de l'identité d'Israël, dans sa résurrection, se passe à travers des personnages qui semblent être banaux, falots, et qui cependant sont insignifiants. Bon, si vous voulez, je ne sais pas, moi j'ai beaucoup de respect pour Abba Eben, il ne s'agit pas de lui, mais enfin quand même. Et cependant, tout cela, ça se passe à travers eux. Et ce qu'on racontera dans les Bibles de l'an 6000, plus que ça, nous sommes dans 5000, disons dans les Bibles de l'an 26000, ce qu'on racontera de la guerre des six jours, par exemple, aura la portée de Asia Shirmoshe Omne Israël, de la sortie d'Égypte, peut-être que de une portée beaucoup plus grande. C'est moi comme nous sommes en train de le vivre. Alors, mais j'ai entendu cet enseignement que c'est un masque qu'Israël prend de telle sorte de ne pas affoler l'humanité entière. C'est cela. Non, c'est-à-dire que le processus n'est pas fini. C'est-à-dire qu'effectivement, les Israéliens sont des descendants de Juifs, si j'ose dire. Et les Juifs ne sont que les descendants des Judéens. Mais je veux dire que ces Juifs-là, qui sont devenus Israël, de Médina d'Israël, retrouvent la dimension du peuple hébreu d'avant le schisme du roi Salomon. Et que c'est à travers cette identité-là que se fera le retour des exilés des 10 tribus, qui est un stade que nous n'avons pas encore atteint, c'est-à-dire qu'il arrivera un stade J'ai l'air de prophétiser, mais je me borne à répéter ce qu'il y a écrit. Il arrivera à un stade où vous verrez des peuples entiers qui viendront demander « Monsieur, est-ce qu'on peut être israélien ?» et à quelles conditions. Et, okay.
J'ai essayé dans mon expérience de parler un peu comme vous avez parlé, mais d'une façon plus simple, plus séculaire, si on peut dire, aux États-Unis et ici aussi. Ça veut dire que vous avez dit qu'Israël, la moralité, c'est une chose, c'est un noir. J'ai rencontré beaucoup de personnes, de jeunes gens en particulier, qui m'ont dit qu'ils ne voulaient pas rester juifs. Et il fallait discuter. Alors j'ai dit ce que vous avez dit, que les Juifs sont plus moraux que les autres, et il faut rester avec le camp le plus moral. Pourquoi aller aux gens qui ne sont pas tellement moraux, comme vous restez. Alors ils m'ont regardé avec grande surprise. Ils ont dit, est-ce que vous croyez vraiment que les Juifs sont plus moraux que les autres gens? J'ai dit, je crois. Mais ils ont dit, regardez autour de vous, regardez tous les commerçants. Regarde M. Cohn, M. Lévy, M. Chappé,
et M. Israël.
Qu'est-ce qui se passe, alors, je n'avais rien à dire. Je viens ici en Israël et je suis dans un certain domaine, je suis professeur. Et je trouve dans mon domaine que c'est juste au contraire. En Amérique, chez les Goyim, j'ai trouvé la moralité dans le domaine de l'éducation. Ici, je trouve l'immoralité. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est la question de tricher dans les
examens.
C'est très simple. Aux États-Unis, on trichait, disons, 1%. C'est un grand scandale. Et c'est un grand... Ici, on triche 100%. Et ce n'est pas...
Donc, c'est ici que c'est
vrai. Je ne dis pas ça comme blague, je dis parce que moi je suis maintenant en train de corriger les examens de Bagout et c'est une expérience terrible. Il y a des signes du trichage dans chaque page. Oui. Qu'est-ce qui se passe ici en Israël, dans le pays saint, que le peuple ne s'intéresse pas à des choses? Et moi, je suis un peu pessimiste et je crois que si on nous donne assez de temps, nous aurons la même réputation que les autres pays. Il y a 50 ans, on n'y avait pas ici des prostituées, mais après un certain temps, on avait. Il y a quelques années, on avait pas, on ne vendait pas des jeux de football. Maintenant, Baruch Hashem, on fait ça ici. Alors, je pose la question, est-ce que ce n'est pas plus important, surtout dans le milieu religieux, qui sont après tout à Doglin, cher Moussard, de faire un peu plus sur les choses pratiques, morales, parce que personne ne parle pas de trichage. On l'excuse, on donne beaucoup de prétextes, on ne parle pas de prostituées qui vendent leur corps et tout ça. On dit, c'est normal, on a tous les prétextes, mais on ne fait rien. Alors je pose la question, est-ce que vraiment nous sommes un peuple de moralité? Et mon réponse à cette question rhétorique est, je ne suis pas très sûr.
Bon, écoutez, votre question est importante. Vous avez assisté à l'analyse depuis le début?
Non, je regrette.
Bon. Écoutez, votre question est importante et je vais donc prendre un peu de temps pour y répondre et peut-être rappeler ce que j'ai dit au début. C'est pourquoi je vais insister assez longuement sur la différence qu'il faut faire entre l'échelle de l'identité collective et l'échelle de l'identité individuelle. Alors, je vais un peu approfondir, si vous voulez, pour répondre à votre question. Ça aussi, c'est prévu. Vous savez très bien, si vous avez lu dans la Gemara le Perek Chelek de Sanhedrin, où il y a des coups de projecteur sur ce qui doit se passer à la fin des temps, c'est-à-dire à notre temps, que les signes qui sont donnés pour le temps que nous sommes en train de vivre sont précisément les signes que vous décrivez à l'échelle individuelle. C'est-à-dire tout se passe comme si il y a une accumulation à l'échelle individuelle du Yetzer Hara. Je vous citerai de mémoire un certain nombre de ces signes qui indiquent que, et il faut le lire dans le contexte, c'est-à-dire, c'est le Talmud qui parle de ce qui arrivera en Israël lorsqu'Israël sera sur le point de la réussite. Et par exemple, Chutzpah Isagé, tout le monde deviendra insolent, que les jeunes gens ne respecteront plus les vieillards, que les vieillards seront méprisés par les enfants, et nous sommes en train de vivre tout cela. Le Chafetz Chaim disait déjà que de son temps c'était arrivé, il se frottait les mains. Je lui dis donc, c'est... Si vous voulez, pour le dire sous une autre forme, c'est-à-dire que nous sommes, la logique de notre histoire est telle, c'est que quand ça va le plus mal possible, c'est que c'est là qu'il faut espérer. Vous connaissez c'est pas pour me faire, si vous voulez, d'un optimisme exagéré pour compenser votre pessimisme. Il faut bien comprendre cette catégorie de la différence à l'échelle de l'identité collective et l'échelle de l'identité individuelle. Je n'ai pas terminé. Au point que le Maharal lui-même, dans Netzach Israël, par exemple, lorsqu'il parle de ce problème du retour de la Géoula et du temps de la Géoula, consacre tout un chapitre à ce principe qu'en réalité, il n'y a de Yetzer Hara vraiment que chez les Juifs. C'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est normal que par un processus naturel, la société d'Israël se constituant, récapitule en elle, et de façon spectaculaire et hypertrophiée, et donc condamnable, bien entendu à l'échelle individuelle, mais qu'il faut intégrer dans la cohérence de l'ensemble toutes les manières d'être rachat possibles à l'échelle individuelle. C'est-à-dire, pas seulement vous, mais nous tous, nous vivons les problèmes que vous décrivez. Mais c'est cela, précisément, cette tension messianique que nous vivons. C'est-à-dire d'un optimisme absolu à l'échelle collective, bien que, bien évidemment, à l'échelle individuelle, non seulement vous avez raison, mais je pourrais vous quitter. Moi aussi, je suis professeur. Je pourrais vous raconter des cas plus extraordinaires. On pourrait l'expliquer de la manière suivante. C'est qu'au fond, c'est la première fois de leur existence, de ce temps de civilisation, que les Juifs sont aux prises avec un État qui est le leur. Et que par conséquent, tout se passe comme si, de façon plus ou moins inconsciente, hein, toute l'attitude de rejet et de refus qu'ils avaient de l'État, lorsque l'État était goy, et qu'eux étaient la minorité juive, non émancipée, non citoyen de l'État, toute l'attitude de clandestinité, et par conséquent de tricherie, qu'ils avaient avec l'énorme normalité d'un État, se découvre par rapport à leur État propre, c'est-à-dire à l'État actuel. C'est-à-dire qu'on ne prend pas au sérieux ces catégories et ces structures de l'État. Tout se passe comme si on joue à faire un État. Et d'où cela vient ? De ce que nous sommes dans ce schlav, dans cette étape préparatoire que je vous ai décrit comme étant le temps de Machiav Ben Yosef, et qu'il y a cette dichotomie entre ce qu'on appelle la religion d'un côté et la politique de l'autre. Et lorsque ceci se résorbera, bien entendu, les choses seront à un tout autre niveau. Je veux dire que cela est effectivement prévu dans les textes. C'est parce que c'est l'identité d'Israël qui se définit par rapport aux valeurs morales qu'à l'échelle individuelle, vous trouvez ce décalage. Je voudrais décrire la chose un peu d'une autre manière. Nous sommes déjà à une troisième étape de l'histoire de l'État juif. La première étape nous a donné un pays alors qu'au fond on n'en voulait pas. Et puis, le résultat, c'était la guerre d'indépendance, Mitrimet HaShichur. Et puis le résultat de cette atteinte, comment dit-on cela ?
Réussite.
De cette réussite a été que le problème s'est aggravé. C'est-à-dire la conséquence du fait que nous avons eu un pays a créé le fameux problème des réfugiés, qui rend la question insoluble, si elle devait être résolue par des moyens purement humains. Et puis, il y a eu la deuxième étape, la guerre des six jours, qui a soudé le nefesh du peuple, l'unité de la personne du peuple dans le monde entier, et la conséquence a été les shtachim, c'est-à-dire une difficulté encore plus grande que nous n'avions pas dans l'étape précédente. Et nous sommes en train, semble-t-il, de vivre à l'échelle collective toute une cohérence d'un certain nombre d'étapes. Il fallait d'abord retrouver le keli le plus fondamental, c'est-à-dire le pays. Ensuite, le gouffre, le corps. Ensuite, dans ce gouffre, il y a un nefesh. Et il fallait retrouver le nefesh, c'est-à-dire le peuple. Mais un gouffre et un nefesh, ça ne fait pas encore un homme. Il faut une neshama. C'est-à-dire, nous sommes maintenant déjà au bord de la troisième étape d'avoir à conquérir notre neshama. Et un gouffre et un nefesh sans neshama, ça se voit. Ça, c'est ce que vous avez décrit. Et nous sommes en train, et nous sommes en train d'arriver à cette étape, nous y sommes déjà en plein. L'étape de la relation entre Israël et la Torah. De la même manière que le pays nous a été donné et imposé, de la même manière que le peuple nous a été donné et imposé, de la même manière la Torah nous sera donnée et imposée. C'est-à-dire actuellement, il y a un refus à l'échelle individuelle de ce qui fait la Neshama d'Israël, c'est-à-dire les valeurs morales, c'est-à-dire la Torah. Mais nous sommes entrés dans ce stade, vous savez que le conflit est comment dire, le conflit est plus que latent, il est déjà posé. On se prépare au Kulturkampf, c'est bien évident. Et que nous avons tous, d'ailleurs, un rôle à jouer pour que la solution soit positive. C'est-à-dire que nous sommes très exactement au stade, et c'est ce que vous décrivez dans votre description, où à l'échelle individuelle, ces hommes, qui sont le processus d'une histoire qui se fait à travers eux, sont en tension de refus avec ce qui fait leur véritable définition, et à l'échelle individuelle, c'est ce que vous avez décrit, finalement, nous entrons dans un temps où, et là encore, on verra Enbrera, ou bien Israël acceptera la Torah, ou bien quoi, il ne peut pas disparaître, donc il acceptera.
Justement, alors, il n'y a pas de ou bien.
Il n'y a pas de ou bien, oui.
C'était ça ma question.
Il n'y a pas de ou bien. C'est-à-dire que, vous savez, je suis en rapport avec, bien que je sois, j'allais dire bien que, pourquoi bien que je suis dati, comme vous l'avez dit dati. Ben, je suis en rapport avec beaucoup de leaders du monde lodati, tant dans les milieux de Chinour que dans d'autres milieux. Et puis tout le monde se rend compte, d'un côté comme de l'autre, que un grand coup de tabac se prépare. C'est-à-dire qu'il faudra qu'Israël se définisse par rapport à la Torah. Et actuellement, il n'y a aucun vocabulaire de dialogue possible entre un camp et l'autre. C'est-à-dire il y a une espèce de conflit énorme qui est en train de se mettre en place. Hein. Tout ce que nous pouvons savoir, c'est quel sera le résultat. Étant donné qu'il s'agit d'Israël, il arrivera inévitablement que, même s'il faudra, je ne sais pas par quel processus, parce que nous ne savions pas par quel processus l'État juif nous serait donné. Nous ne savions pas par quel processus Jérusalem nous a été donné. Mais sans savoir par quel processus, nous savons que l'étape inévitable qui arrive, même s'il faudra violenter les personnes, c'est que la Torah se définira comme étant l'identité d'Israël, même à l'échelle individuelle.
Est-ce que je vous comprends de dire que les gens refusent, mais quand même, on va devenir plus moral. C'est ça que vous voulez dire. Et ça sera capouille à l'aigle.
Oui.
Alors, moi, je croirais que c'est un mieux. Les gens ne refusent pas et qu'on est un peu le processus. Moi, je ne sais pas. Ça veut dire, si je triche, pour prendre mon exemple, que je fais ce qu'il faut faire et après quelqu'un va me copier à live et m'obligera
oui, alors, à manger. Non, je m'explique. Ce ne sera pas du tout par la crainte du gendarme, parce que le gendarme aussi est dans le coup. Mais ce sera par Irat Shamaïm, c'est-à-dire par Irat Shamaïm. Ça veut dire ce qui nous sera donné, je ne veux même pas dire imposé, ce qui nous sera donné, c'est la bonne volonté qui fera que l'on reconnaîtra que la seule manière d'être Israël, ce sera par les voies de la moralité. Écoutez, vous savez ce qui est arrivé? Ce qui est arrivé en fait, et c'est une grande catastrophe, mais probablement inévitable, c'est que toutes les forces de l'identité d'Israël, qui étaient de l'ordre de Machéar Ben Yosef, c'est-à-dire capable de faire la réalité concrète de la société d'Israël, se sont coupés des forces spirituelles, se sont coupés des forces, disons, de la Torah, de celles qui sont en germe, le Machéar Ben David, et ce qui fait que chacune des deux parties d'Israël, ceux qui savent que la Torah est notre Neshama, et ceux qui sont d'autre part occupés à faire le gouffre d'Israël, sont mutilés des valeurs correspondantes. Ce qui est arrivé, c'est qu'effectivement, il y a eu une dichotomie de l'ensemble de ces valeurs, et nous sommes dans un processus qui est actuellement, on pourrait dire, un peu trop tard. On a privé à l'échelle individuelle les hommes de ce pays la majeure partie des valeurs de la Torah sous prétexte que c'était de la religion. Alors le résultat a été que c'est la morale qui en a pris un coup. Vous comprenez? C'est dans le rapport avec la Torah que devra se normaliser tout ce problème. Il y a oui, je crois qu'on peut le dire sous cette forme.
Je pense qu'il y a beaucoup...
Comment ? Ah oui, ça me mène à vous dire d'autre part que inévitablement notre histoire est celle d'un tri. Notre histoire est un birour. Et il y a bien évidemment un tri qui devra se faire.